France Culture.
Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique.
Il y a des mythes et il y a des figures obligées dans l'histoire de l'Union européenne. Les pères fondateurs, l'importance du couple franco-allemand pour l'unité européenne, etc. Il y a aussi dans cette histoire quelques malentendus, à commencer par l'Europe sociale. En France, la chose semble entendue. Notre modèle social hérité du programme du CNR et des grands compromis de la fin de la Seconde Guerre mondiale, ce modèle se réduit depuis quelques années comme peau de chagrin devant les assauts répétés de la mondialisation et de l'Europe libérale. Et il est vrai que, en privilégiant l'intégration économique sur d'autres considérations, peut-être plus politiques, la réalité concrète de l'Europe a peut-être accrédité cette idée. Mais l'Europe sociale existe bel et bien dans les traités, aussi bien qu'en pratique. Et sur ce sujet, il n'est peut-être pas inutile de réécouter cette intervention de Jacques Delors en 1998. Celui qui avait dirigé la Commission européenne de 1985 à 1994 s'insurgeait déjà, et de façon assez énergique, contre le constat très répandu d'une Europe trop libérale, pas assez protectrice pour les droits sociaux des Européens et des Français en particulier. Voici donc Jacques Delors dans « À la rencontre de l'Europe » au micro de Sylvie Andreux.
Bonsoir, à la rencontre de l'Europe, cette semaine l'Europe sociale, une émission de Sylvie Andreux. L'Europe sociale est sans doute un des moyens les plus sûrs de former dans les meilleurs délais l'Européen de demain. Quoi de plus commun en effet aux hommes et aux femmes que les questions de santé, de protection sociale, d'éducation, de vie dans l'entreprise ou de politique familiale. C'est l'Europe de chacun d'entre nous. Quoi de plus normal que de demander à Jacques Delors, président de la Commission européenne entre 1985 et 1995, que d'introduire cette semaine sociale, lui, l'infatigable soldat de la construction européenne, dont les discours ont toujours été martelés de ces maîtres mots définissant à eux seuls l'Europe à la Delors, compétition, coopération et solidarité. Aujourd'hui, Jacques Delors n'est pas retiré des affaires européennes. Sa fondation, c'est bien normal, s'appelle Notre Europe, dont il voudrait qu'elle aille encore plus vite et encore plus loin. Jacques Delors, vous vous souvenez de votre première tentation européenne ?
Oui, cela date de l'immédiate après-guerre, et notamment avec cet événement historique que fut la rencontre à La Haye de nombreuses personnalités politiques et culturelles, de toute obédience, de tout courant philosophique, sous la présidence de Winston Churchill, avec, pour le jeune homme que j'étais, ce slogan qui m'a aussitôt frappé, « Plus jamais la guerre entre vous ».
Alors c'était le rêve européen pour votre génération ?
Oui, c'était à partir de « Plus jamais la guerre entre nous », c'était de trouver les moyens de l'éviter. Et selon les idées des pères de l'Europe, et notamment celle de Jean Monnet, qui a été le grand concepteur, il s'agissait de créer entre ces pays des occasions de coopérer ensemble, de mettre leurs forces ensemble, de manière à mieux se connaître et à ne pas retomber dans ces guerres civiles européennes qui nous ont fait tant de mal.
Mais c'était presque plus facile et plus naturel au lendemain de la guerre d'être européen qu'aujourd'hui, non ?
Ben c'était plus naturel.
Avec des récits de guerre quand même des parents.
C'était... Oui, c'était tout à fait naturel, notamment pour les jeunes générations. Mais en ce qui concerne les hommes politiques, ils étaient divisés. Certains gardaient du ressentiment, des deux côtés d'ailleurs. D'autres, en France, se méfiaient de la reconstruction de l'Allemagne et de la renaissance de sa puissance. Rappelez-vous les querelles sur la Sarre, notamment. Et d'autres, enfin, étaient européens, sans idéalisme, naïf, mais simplement parce qu'ils considéraient qu'il fallait tourner la page et en ouvrir une autre qui serait fondée sur la réconciliation de ces peuples et qui serait nourrie par ces échanges économiques, ces échanges humains, culturels, d'où l'Office français franco-allemand de la jeunesse, par exemple.
Mais personne ne voyait l'intérêt immédiat de devenir européen, parce que vous parlez ou de naïveté ou de démission.
Non, je veux dire...
Il n'y avait pas d'adhésion plus massive à l'Europe ? Plus complète ?
Dans l'opinion publique, non, parce que, il y a eu des épisodes difficiles. La construction européenne n'a jamais été un long fleuve tranquille. Rappelez-vous, le premier geste a été la... Et si nous mettions en commun notre charbon et notre acier, qui était à ce moment-là le nerf de la guerre, pour parler rapidement, ce fut la communauté européenne du charbon et de l'acier, dont d'ailleurs la structure et la philosophie institutionnelle ont beaucoup inspiré ensuite les uns et les autres. Et après, 3 ans après, on parle d'une communauté européenne de la défense. Alors là, les passions se sont déchaînées. Et ça s'est terminé par un refus de se prononcer du Parlement français en 1954, qui a abouti en quelque sorte à l'échec de ce projet qui était politique. Mais on comprend qu'à l'époque... L'idée d'avoir une armée avec des Allemands et des Français ensemble, et ceci 9 ans après la fin de la guerre, c'était difficile. C'est pourquoi les constructeurs de l'Europe ont dit il faut continuer par l'économie. Et ils ont proposé en 1956 la communauté européenne, économique européenne, et un marché commun ensemble.
Alors, vous avez prononcé le mot de politique, et vous dites, enfin je vais un peu vite, mais vous dites qu'aujourd'hui, l'Europe ne fera pas l'économie de l'analyse de sa réalité et de sa vérité politique.
Non, je veux dire par là que pendant des années, l'enseignement des années qui se sont écoulées jusqu'en la fin 1970, et que toutes les initiatives de caractère strictement politique, qu'il s'agisse de la communauté européenne de défense, qu'il s'agisse du projet gaulliste qu'on a appelé le plan Fouché, qu'il s'agisse du contre-plan des 5 partenaires de la France, qui avait pour but essentiellement de créer des institutions politiques, ont échoué. Donc il a fallu le faire par l'économie. Et Mme Thatcher, qui a été un grand adversaire de certaines évolutions de l'Europe, disait « through the back door », par la porte de derrière. Et moi-même, j'ai utilisé cette méthode par l'économie. On pourra y revenir. Mais ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, compte tenu des succès de l'Europe économique, qui a pénétré la vie de chacun, on ne progressera plus sans politiser le débat, sans expliquer aux gens pourquoi nous combattons et nous vivons ensemble.
Donc il y a une obligation de débat politique aujourd'hui.
Voilà, il y a toujours eu, mais aujourd'hui...
Une vérité politique qui s'impose.
Ou pour prendre un exemple actuel, l'Union économique et monétaire, qui a été un de mes chantiers, va entrer en application le 1er janvier prochain. Eh bien, les partisans de la méthode par l'économique sont très optimistes. Il dit l'union économique et monétaire va entraîner l'union politique. Et moi je dis ce n'est pas aussi simple que ça. Il faut faire une réflexion sur la politisation du débat politique et c'est à ce que je m'emploie dans cette fondation Notre Europe qui vous accueille aujourd'hui.
C'est pour ça que vous dites aussi j'ai peur pour l'Europe.
Oui, mais j'ai peur pour l'Europe pour d'autres raisons. C'est que si ma première motivation a été le plus jamais la guerre entre nous, et correspondait d'ailleurs à un idéal de fraternité, de réconciliation entre les peuples, sans naïveté. À partir des années 70, rappelez-vous, le choc pétrolier, le dollar qui n'est plus rattaché à l'or. Rappelez-vous nos gouvernements qui disaient nous allons bientôt sortir du tunnel. Bref, c'était la fin de ce qu'on a appelé les 30 glorieuses, étaient d'ailleurs moins de 30. Et à ce moment-là, dans mon travail, j'ai ressenti que l'Europe était sur la voie du déclin, un déclin géopolitique. Nous avions été épuisés par ces guerres civiles européennes, notamment celle de 1914-18, qui a été effroyable du point de vue des pertes humaines. On peut dire qu'une génération a été fauchée des deux côtés. Nous avons perdu nos colonies, c'était d'ailleurs dans le mouvement d'histoire, je n'en reviens pas. Bref, nous perdions aussi de l'influence en matière économique avec les États-Unis, le Japon qui se portait très bien à l'époque, les pays asiatiques qui montaient. On voyait venir ce qu'on appelle aujourd'hui la mondialisation. Donc à ce moment-là, je me suis dit, si nous ne faisons pas l'Europe, nous continuerons notre déclin. Et mon thème était à ce moment-là non plus « plus jamais la guerre entre nous », mais « choisissez entre la survie et le déclin ».
L'Europe pour survivre.
Voilà. Mmh. Et par conséquent, à ce moment-là, je n'ai pas toujours tout de suite été entendu sur ce thème. Et puis j'avais dit « il faut que l'Europe soit puissante et généreuse à la fois ». Et le terme de puissance offusquait beaucoup de responsables catholiques qui avaient été pourtant au départ très en faveur de l'Europe. Ils trouvaient que cette Europe puissante serait une Europe matérialiste. Et le terme de générosité effrayait tous ceux qui pensent que l'on paye trop d'impôts, que l'on fait trop de choses pour les pays en voie de développement. Mais la puissance sans la générosité, vous ne laissez aucun nom dans l'histoire. Et la générosité sans la puissance, c'est de la démagogie et de la facilité, puisque vous n'avez pas les moyens de faire.
Vous dites aussi que l'Europe doit défendre ses droits et ses valeurs.
Oui. Et là aussi, dans ce déclin, il y a le fait quand même que l'Europe a apporté au monde pas que des bonnes choses. Rappelez-vous les croisades, rappelez-vous les tentatives d'hégémonie et autres. Mais quand même, l'Europe est à la fois la fille du judéo-christianisme, de la démocratie grecque et du droit romain. Et ce mélange de démocratie et de droit a fait le tour du monde.
Et des philosophes des Lumières
oui,
aussi.
Oui, oui, oui. Et a fait le tour du monde. Et aujourd'hui, quand vous regardez l'activité intellectuelle, vous craignez aussi pour ce qui fait la spécificité, la personnalité de l'Europe. Donc c'est vraiment un combat historique que les pères de l'Europe avaient senti. J'ai retrouvé des textes de Jean Monnet de 1943 où il craignait précisément pour le déclin de l'Europe. Bref, c'est un combat d'une grande portée et qui doit échapper aux humeurs du temps. Et pour le réussir, il faut voir loin et large. Il faut écouter ce que disent les citoyens et expliquer.
Expliquer d'abord peut-être, non ?
Écouter d'abord,
expliquer ensuite. Oui. C'est comme ça qu'on fait passer les réformes dans ce pays prétendument ingouvernable ?
C'est une question de morale. C'est une question de morale. Nous vivons en démocratie. Il y a deux manières d'écouter l'opinion publique. Il y a la manière des sondages. Et aussitôt qu'il y a eu un sondage, on dit comme le sondage. Puis il y a une autre manière qui est d'écouter les citoyens, et puis ensuite d'essayer de leur expliquer et de leur faire partager un projet qui est dans leur intérêt immédiat, mais qui aussi et surtout préserve les intérêts à long terme de la France en Europe, de l'Europe et des valeurs communes aux Européens. Et vous savez, le mode de vie européen, ce n'est pas le mode de vie américain ou le mode de vie japonais.
Qu'est-ce que les Français comprennent à l'Europe ?
Eh bien, on peut dire que depuis le début de cette histoire, je ne parle pas d'avant-guerre, car il y a eu beaucoup d'écrivains avant-guerre qui ont parlé de l'Europe, Victor Hugo, Saint-Simon et bien d'autres. Mais depuis le début de cette aventure, depuis 1950, Les Français, dans leur ensemble, ont été de fidèles soutiens de l'idée européenne. Et je dis même que si à certaines périodes, nous avions eu des institutions politiques plus fortes, une démocratie plus vivante, je parle de la 4e République, si sous la 5e République, nous avions compris que l'influence française n'était pas dans la lignée d'un certain esprit de supériorité, nous aurions fait plus. Mais quand on regarde les enquêtes d'opinion régulières, sérieuses, l'adhésion des Français n'a jamais manqué. Et ce qui est extraordinaire même, c'est que lorsqu'on a commencé à parler de l'union économique et monétaire, et rappelez-vous que autour du traité de Maastricht, il y avait environ un homme politique ou une femme politique sur deux qui était contre. Eh bien, on a fait des enquêtes. Et à ce moment-là, malgré les attaques, il y avait une majorité française qui était pour un franc stable, pour un franc fort et pour une monnaie européenne. On ne l'a pas dit à l'époque, pour ne pas avoir l'air d'opposer des sondages au débat public, mais l'adhésion des Français n'a jamais manqué à l'idée européenne. Et c'est ce qui explique l'influence très grande, il faut dire, qu'ont joué les Français dans cette histoire de 50 ans.
On jouait ou joue encore ?
Tout dépend de la manière dont on s'y prend. La France n'est jamais aussi influente et aussi grande que lorsque elle oublie de parader. Mais si l'on veut montrer que, si l'on a une idée que la France est un pays incomparable, que nous n'avons rien à prendre des autres, mais que nous avons, nous, beaucoup à donner à l'universel, si on est sur cette position-là, on ne réussit jamais à faire avancer l'Europe ni à convaincre nos partenaires.
Jacques Delors, on sait que vous êtes un homme qui mûrissait longuement vos décisions. Cette présidence de la Commission européenne que vous occupez à partir de 1984,
c'est 85. Désigné en juillet 84, prise de poste le 7 janvier 85.
Alors c'est une charge, parce que c'était une charge que vous avez acceptée après réflexion ou sans hésitation, tant votre penchant pour l'Europe était fort.
C'est-à-dire que il n'était pas prévu. Si vous aviez consulté les faiseurs de pronostics après le Conseil de Fontainebleau, où François Mitterrand a mis fin aux querelles intra-européennes qui minaient cette Europe depuis 4 ans, si vous aviez écouté le jeu des pronostics, mon nom ne figurait pas. Mais par un concours de circonstances que l'on pourra rappeler dans
des... On parlait de qui à votre place ?
On parlait d'un Allemand, puis ensuite on a parlé d'un autre Français, bref. Mais donc c'est arrivé sur moi parce que les 10 pays se sont mis d'accord sur mon nom. Mais je n'y avais pas beaucoup pensé avant. J'étais ministre de l'économie et des finances et croyez-moi, pendant cette période, c'était une lourde charge.
Alors c'est une nomination qui vous a rendu heureux ?
Non, j'étais intéressé de faire cela parce que je savais que j'aurais peu de pouvoir. La Commission européenne a beaucoup moins de pouvoir que ne le disent les démagogues et même les journalistes en France. Mais je savais qu'on pouvait y exercer une magistrature d'influence. Or, c'est un travail que je connaissais bien pour l'avoir pratiqué au commissariat du Plan, une organisation aussi créée par Jean Monnet, le père concepteur de l'Europe. Et j'avais beaucoup appris auprès du nouveau commissaire au Plan, Pierre Massé. C'est-à-dire... selon une formule qu'aimait beaucoup Jean Monnet et qu'il avait repris d'un anglais, il vaut mieux faire que paraître.
Vous préférez justement l'influence au pouvoir ?
Oui, nettement, je préfère. Et puis je pense que c'est assez réconfortant de savoir qu'un intellectuel, une personne qui s'occupe de la vie associative peuvent exercer dans leur période aussi plus d'influence que quelqu'un qui détient le pouvoir politique. C'est encourageant. Mais je comprends que certains soient fascinés par le pouvoir. Ils ne manquent pas cela. Vous en avez même déjà rencontré.
On va enjamber une décennie de votre existence qui a été très constructive. Donc vous arrivez en 85. Alors brièvement, dans quel état vous trouvez l'Europe? Combien êtes-vous? Et quel est le concept européen qui émerge à l'époque?
François Mitterrand avait réglé les querelles de famille de la période 80-84. Donc en 1984... Le dossier britannique, la fameuse phrase de Madame Thatcher, « I want my money back », c'est-à-dire « je veux payer moins au budget européen », François Mitterrand avait trouvé une formule, il avait réglé 7 autres sujets de conflit entre les partenaires, donc la famille était sinon réconciliée, du moins apaisée.
Pas tout à fait au complet quand même.
Nous étions 10.
Oui, vous étiez 10.
Voilà, à l'époque.
Et vous savez comment il s'y est pris, François Mitterrand, avec Madame Thatcher?
Non, bah, pas qu'avec Madame Thatcher.
Mais pour la faire payer.
François Mitterrand a dit, je fais mon affaire personnelle de cela. Il réunissait chaque semaine dans son bureau, durant la présidence française, le ministre des Affaires étrangères, Claude Cheysson, le ministre des Finances, c'est-à-dire moi-même, le ministre des Affaires européennes ou le ministre de l'Agriculture aussi. Et il nous interrogeait, et ensuite il rencontrait les chefs d'État, il bâtissait lui-même ce compromis global que, grâce à son génie politique, il a réussi à faire passer à Fontainebleau.
Donc vous entrez dans l'Europe quand Madame Thatcher y a déjà un pied quand même.
Elle y est. Elle a adhéré depuis 80, mais elle boudait.
Elle est mauvaise élève de l'Europe.
Elle refusait toute décision importante tant que la question financière ne serait pas résolue. Elle est résolue, donc l'Europe, la famille est apaisée, l'esprit de famille n'est pas encore très grand, mais la famille est apaisée, l'économie va mal, et à ce moment-là, je fais le tour des capitales.
Vous avez beaucoup tourné à ce moment-là.
Des 10 capitales, entre juillet 84 et décembre 84. Je rencontre aussi les autres membres désignés de la commission. Et je leur propose, je leur dis, puisque nous avons réglé les querelles de famille, maintenant il faut relancer la mécanique. Hein, il faut se fixer un projet. Et je leur propose 4 projets. Une défense européenne, une monnaie commune, une réforme des institutions, une Europe plus politique, plus démocratique. Et comme je savais que ces 3 projets n'auraient pas l'unanimité, je leur dis un quatrième, et si on faisait vraiment un grand marché unique? Et vous en avez d'autant plus besoin que, regardez vos économies, elles stagnent, alors que les États-Unis vont progresser, l'Asie explose, etc.
Et donc ça passait par la suppression des frontières, c'est ça?
Cette idée les séduisait. Donc je leur ai dit, nous allons constituer un marché unique, et j'ai fixé un objectif en 92. Et d'ailleurs, si j'avais été publicitaire, j'aurais gagné beaucoup d'argent, car cette idée d'objectif 92 a été utilisée par beaucoup.
Mais la suppression des frontières, c'est vous quand même, Jacques Delors?
Oui, c'est ça.
Oui, c'est ça. Hein,
oui, mais il s'agissait, pour réaliser un grand marché unique, il s'agissait d'assurer la liberté...
De faire circuler les hommes et les marchandises.
La liberté de circulation des personnes, des biens, des services et des capitaux. Ce qui impliquait 280 lois européennes. Et par conséquent... mais l'argument qui les a vraiment convaincus à l'époque... C'était, vos économies sont relativement faibles, vos marchés sont trop étroits.
On a besoin les uns des autres.
Vous ne coopérez pas assez entre vous, donc ils ont accepté ce projet. Et ils l'ont accepté très vite, et j'en ai fait le thème essentiel de mon discours d'investiture devant le Parlement européen.
C'est ce qu'on appelle le démarrage en fanfare de Jacques Delors dans l'Europe?
Non, à l'époque, quand j'ai été nommé, il y a eu, je crois, 2 lignes dans le journal Le Monde, et c'est tout. Et lorsque j'ai fait ce discours en janvier 85, il y a eu très peu d'écho. Non, l'Europe était encore marginalisée dans l'information. Mais à partir de là, je pouvais mettre en place une stratégie sur plusieurs années.
Alors, et qu'est-ce qui a suivi alors justement?
Non, mais la stratégie était prévue dès cette époque.
D'accord.
Avant même d'arriver, j'avais téléphoné au patronat européen et aux syndicalistes européens pour leur dire, vous ne vous rencontrez pas, depuis 1977, vous ne vous rencontrez pas. Nous allons nous faire une réunion à Val-Duchesse, ça s'appelle les réunions de Val-Duchesse depuis, de façon à avoir une concertation avec les forces vives. Et d'ailleurs, les forces vives, patronat et syndicats, m'ont plus appuyé dans mon projet au début que les forces politiques. Quant aux forces politiques, je leur ai dit, voilà, nous allons vous expliquer comment réaliser ce grand marché unique d'ici 92. On a fait un livre blanc qui a été établi...
Le premier, c'est ça ?
Oui, avec beaucoup de talent par Lord Coffield, un Anglais. Et je leur ai expliqué ensuite, à Milan, qu'on ne pourrait pas adopter ces 280 textes sans changer le traité. Ils ont accepté que l'on se mette autour de la table et on a fait un nouveau traité qui s'appelle, d'un nom ésotérique, l'acte unique. Et ensuite, une fois qu'ils avaient fait l'acte unique, je leur ai dit, mais vous n'avez pas les moyens de ce que vous avez mis dans l'acte unique. Et j'ai préparé un paquet, on appelait ça le paquet de l'or, qui a été accepté en février 88, sous présidence allemande à Bruxelles, après des heures et des heures de discussion, des drames, des suspensions de séances et autres. Donc voilà mon triptyque. C'est ce qu'on appelle la théorie de l'engrenage. Mais moi, j'aime beaucoup tout ce qui ressemble à l'ingénierie sociale. Faire bouger les choses comme cela, mais pas faire bouger les choses en tenant les gens par le nez, que d'eux-mêmes, ils soient amenés à le faire.
À propos de livres blancs, là, vous citez le oui. premier. Il y a eu le second, où là, vous employez les termes de compétitivité et de production.
Celui-là, c'est de 93. Hein. Oui. Celui-là a été accepté, non sans mal.
On parle de production, c'est ça ?
Compétitivité, emploi et croissance. Et pourquoi ai-je présenté ce programme à ce moment-là, en 93 ? Pour la raison essentielle, c'est que, après des années d'expansion provoquées par l'objectif 92, on a créé 9 millions d'emplois nouveaux entre 85 et 91, revenaient des années difficiles. Pour des raisons multiples, la conjoncture économique, le cycle économique s'affaissait, et il y a eu des crises de change, la livre sterling et la lire italienne, la peseta espagnole, qui ont mis en cause le système monétaire européen, et enfin, on allait payer les conséquences de l'unification allemande, euphorique au début. Puis ensuite,
coûteuse.
Euphorique, coûteuse pour les Allemands surtout. Parce que,
donc pour l'Europe quand même.
Oui, mais par le biais du fait que pour essayer de freiner les tendances inflationnistes, la Bundesbank, l'Institut d'émission de l'Allemagne, a monté ses taux d'intérêt. Et ceci d'ailleurs était prévisible puisqu'on n'avait pas accepté de partager le financement de l'unification allemande. Et le résultat, c'est que, à nouveau, des vents mauvais secouaient l'Europe.
Des vents contraires, c'est ça ?
Mauvais, oui, contraires, on peut même dire.
Parler d'un bateau qui tangue.
Oui, et donc, je me suis dit, il faut absolument reprendre le fil qui permettra à l'Europe de dire non au déclin.
Donc, toujours, vous sortez votre second livre blanc, là,
oui,
c'est ça ?
Oui, celui il y en a eu d'autres, mais ce sont ces deux-là dont on se
rappelle. Alors, vous insistez sur quoi, à ce moment-là ?
Eh bien, je leur dis, c'est la survie ou le déclin. Si vous ne... Et je vous propose trois grands axes d'action, plutôt quatre grands axes d'action, à développer au niveau européen comme au niveau national. Premièrement, renforcer votre coopération dans les technologies nouvelles. Technologie de l'information, regardez votre retard vis-à-vis des États-Unis, on le paye encore aujourd'hui, biotechnologie. Mais pour ça, coopérez entre vous, car l'Union fait la force. Deuxièmement, pour éviter une trop grande stagnation de l'économie, faites de grands travaux qui sont de toute façon nécessaires, des grandes infrastructures qui permettront de circuler plus vite et moins cher dans toute l'Europe. Troisièmement, revoyez vos politiques de l'emploi. Faites preuve d'imagination. Et aujourd'hui, on a besoin d'emplois qualifiés. Donc, faites attention à la formation, rendez vos marchés du travail plus flexibles. Et enfin, quatrièmement, faites attention à vos systèmes de sécurité sociale qui sont menacés à la fois par une certaine irresponsabilité et par la démographie. Car vous ne pouvez pas demander aux jeunes de demain, qui seront peu nombreux par rapport aux vieux, de supporter le poids de cela. Et s'ils le supportent, ce sera au détriment de la croissance économique. C'était un cercle vicieux. Donc voilà les quatre messages qui ont été passés. Quels sont les résultats ?
Messages reçus ?
Messages acceptés, non sans mal, à Bruxelles, en décembre 1993. Vous voyez qu'il y avait beaucoup de social. Mais quand il s'est agi de le mettre en œuvre, les ministres des Finances ont traîné les pieds pour le financement des infrastructures. Les gouvernements n'ont pas vu l'importance d'une coopération dans les nouvelles technologies de l'information. Il est donc resté les deux aspects de réformes internes. Et là, il y a eu beaucoup de débats. Le livre blanc est encore cité. Il y a eu beaucoup de débats dans les pays européens, sauf en France. Pas un seul débat auquel j'ai été invité en France sur le livre blanc. À noter en particulier. Mais en revanche...
Mais vous voulez dire qu'on n'invitait personne, alors ? On n'en parlait pas ?
Oui, enfin, c'est le nombrilisme français dans toute sa splendeur. Donc, dans d'autres pays, on l'a fait. Et le résultat, c'est que sur les 15 pays actuellement membres de l'Union européenne, 8 ont conclu, ont discuté du livre blanc et ont conclu des accords nationaux entre l'État, le patronat et les syndicats pour essayer d'adapter nos systèmes d'emploi, d'adapter nos systèmes de sécurité sociale, tout en maintenant les valeurs de solidarité qui sont à la base.
Mais entre générations, hein,
oui,
c'est surtout ça qui compte pour vous.
Non.
Entre bien portant et mal portant.
Ils ont aussi accepté, oui, entre bien portant et mal portant, entre gens actifs et gens en retraite. Mais ils ont aussi accepté des réformes dans le système éducatif, des réformes dans les modalités d'indemnisation du chômage. Mais tout ça par accord entre les trois grands acteurs de la vie économique, le patronat, les syndicats et l'État. Mais il n'y a pas la France dans ces pays. Et le résultat, c'est que dans ces pays où il y a eu des accords nationaux, eh bien, la situation est bien meilleure qu'elle ne l'est en France.
Jacques Delors, il y a un troisième livre blanc, c'est, il me semble, hein, cet accord fou dont on parle. Et à Paris, à ce moment-là, vous allez me dire que ce n'est pas pour la première fois, mais enfin, de mon point de vue, l'Europe sociale. Vous ne trouvez pas que c'est un peu le parent pauvre de l'Europe, quand même, l'Europe sociale ?
Non, je ne suis pas d'accord. Pour plusieurs raisons. Premièrement, quand mes anciens ont fait le traité de Rome sur le marché commun, ils ont pensé que les systèmes sociaux des pays étaient si différents que si on essayait de les harmoniser, on n'y arriverait pas et on risquait même de reculer en matière sociale. Donc ils se sont concentrés à l'époque sur les dimensions sociales qui étaient accessibles pour la voie du progrès. Je vous étonnerais en disant, par exemple, qu'il y a une disposition du traité du marché commun soutenu ensuite par des arrêts de la Cour de justice, qui a beaucoup aidé à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes.
Mais récemment ?
Non, ça a été tout au long de ces années. Ça ne s'est pas vu avant la révolution de 1968, mais c'était dans le texte. Je vous étonnerai peut-être en vous disant que la politique agricole commune est une politique qui a une grande dimension sociale. On a créé également un fonds social à l'époque. On a essayé d'intégrer les territoires et départements français d'outre-mer, ce qui est une preuve de solidarité. Bien, voilà pour cette période. Mais il y avait toujours une idée de dire l'économique, c'est le marché, c'est la concurrence, on le met ensemble, on garde chacun son système social. Alors, quand j'ai fait mon triptyque, marché unique, acte unique, paquet de l'or 1, j'ai pensé au social. Et c'est à cette époque que j'ai proposé et obtenu une réforme des politiques régionales. Et je vous étonnerai peut-être en vous disant que ces politiques régionales, qui représentaient 5 milliards d'écus en 1984, représentent aujourd'hui 33 milliards d'écus. qu'elles ont permis aux régions les plus pauvres de l'Europe de rattraper une partie de leur retard. Que 46% du territoire français sont couverts par ces politiques régionales. Demandez aux élus locaux, ceux qui ont par exemple un projet pour leur commune ou pour leur région, un projet qui aidera au développement, qui créera des emplois.
Il arrive aussi que l'argent soit bloqué à Bercy, Jacques Delors.
Ah oui, mais ça, c'est parce que la France est un pays qui centralise et qu'on nous a refusé d'avoir un partenariat avec les régions. Ça, c'est la France telle qu'elle est aujourd'hui.
Donc vous me décrivez l'Europe au secours, ou en tout cas à la rencontre des plus pauvres, en tout cas.
Oui, et donc entre 5 et 33 milliards d'écus, je ne veux pas abuser des chiffres, vous avez déjà 6 fois plus en 13 ans, c'est pas mal du tout. Et d'autre part, ayant lancé ce dialogue entre patronat et syndicat, ensemble, ils ont peu à peu appris à travailler, ce qui n'était pas facile. Parce qu'il y a des divergences à l'intérieur des patronats. Le patronat anglais, le patronat allemand, le patronat français n'avaient pas les mêmes vues. De même à l'intérieur des syndicats. Parce qu'il y a dans ces pays, il y avait des syndicats qui sont très, très forts, qui représentent 55-60% des salariés sont syndiqués. Et pour la Suède, 80%. Donc ces pays considéraient d'un certain œil les pays où il y avait des syndicats faibles. Bref, il fallait qu'ils se mettent d'accord entre eux. Mais nous avons réussi au cours de ces années à les faire parler entre eux avec quand même des petits cailloux du petit pousset qui valent la peine. D'abord, patronat et syndicats ont plaidé pour la coopération entre les politiques économiques nationales dès 86-87. Ils n'ont pas été écoutés par nos excellents ministres des Finances, mais ils l'ont proposé. Ensuite, nous avons eu la charte sociale en 1989, qui est issue, adoptée sous présidence française, qui est issue de ce dialogue social et du rôle joué, très important à l'époque, par le Conseil économique et social. Et puis, nous avons voulu mettre certaines de ces choses dans le traité. Et ça a été le fameux protocole social du traité de Maastricht. 2 heures avant la fin du Conseil européen de Maastricht, vu l'obstination des Anglais, les autres pays étaient prêts à dire le chapitre social, ça sera pour la fois d'après. Et c'est à ce moment-là que je suis intervenu très fort.
Ça aurait été un grave échec, ça.
Et j'ai proposé une solution qui consistait à accepter à 12... les Anglais compris, qu'on ne le fasse qu'à 11. Et on l'a fait à 11. Et par conséquent, ensuite, grâce à ce protocole social, on peut dire qu'il y a eu 3 conventions collectives européennes, 3 négociations collectives. L'une sur la représentation des travailleurs dans les sociétés multinationales, quand même important, que lorsque le siège d'une multinationale est à New York ou à Londres, les travailleurs français puissent être au courant et dire ce qu'ils pensent. Il y en a une sur le congé parental, c'est-à-dire la possibilité dans toute l'Europe, pour un homme ou pour une femme, de prendre un congé pour s'occuper de sa famille. Et le troisième a été sur les formes d'emploi atypiques, c'est-à-dire les contrats provisoires, les contrats temporaires. Donc nous avons maintenant une habitude de convention collective en Europe. Et après mon départ, cela a continué, car grâce... À l'action de la France et notamment de Lionel Jospin, on a pu faire introduire dans le traité d'Amsterdam, concrétiser dans le traité d'Amsterdam, ce que nous faisions de manière informelle avant.
Donc on va établir des conventions collectives européennes.
Il y en a trois. La pratique revient à ça.
Est-ce que vous êtes favorable à un SMIC européen?
Oui, si on le proportionne à la richesse de chaque pays. Si vous mettez le même taux dans les pays, c'est impossible. Ça deviendrait insupportable pour la Grèce, pour le Portugal, pour l'Espagne, et peut-être même pour l'Irlande. Et si vous le mettez trop bas, alors c'est un recul social en France ou en Grande-Bretagne. Donc ce que l'on pourrait, c'est définir un SMIC par rapport à la richesse nationale moyenne du pays ou au revenu moyen
du
pays.
Donc pas facile d'aligner le Nord et le Sud.
Le Nord et le Sud, oui, non, ça n'est pas facile. On a fait des progrès, mais on ne peut pas... D'ailleurs, on n'arrivera jamais à supprimer toutes les disparités. On peut les atténuer, on peut donner à chaque région ses chances. C'est ça qui explique le succès des politiques régionales que j'avais proposées en 1987.
Est-ce que vous êtes favorable à un minimum de planification économique et sur quel terrain de l'économie ? Alors j'ai deux exemples, c'est ceux des transports et du bâtiment.
Je pense qu'au niveau européen, ça n'est pas possible. Encore aujourd'hui, dans l'état actuel des choses. Ce que l'on peut faire au niveau européen, c'est essayer de rassembler les meilleurs esprits pour réfléchir sur le futur de l'Europe, de la société, de son économie. J'ai créé d'ailleurs en 1985 une cellule de prospective qui s'occupe de cela. Mais pour le reste, il est vrai que dans certains secteurs lourds, dont l'activité structure l'économie, même si elle le fait moins qu'il y a 50 ans, car aujourd'hui, les locomotives de l'économie, ce sont les nouvelles technologies de l'information. Mais malgré cela, il est possible, c'était un peu le cas des grands travaux, les grands travaux de mon livre blanc qui n'ont pas été acceptés, mais qui se mettent petit à petit avec beaucoup de retard en œuvre, eh bien ces grands travaux consistaient à créer un réseau sanguin, c'est-à-dire un réseau de routes, de trains à grande vitesse dans toute l'Europe, comme je l'ai dit déjà, pour circuler plus vite et moins cher, et ça ne pouvait se faire qu'à partir d'une programmation, choix des projets essentiels. Et cela a été fait dans le livre blanc. Donc c'est que c'est possible. Ce qu'on ne peut pas aujourd'hui, c'est faire des planifications détaillées, comme on le faisait en France quand j'étais au commissariat du plan, parce que le rôle du marché, la mondialisation, interdisent de faire des programmations détaillées. Mais on peut toujours scruter l'avenir, et vous savez ce que disait Gaston Berger, regarder l'avenir, c'est déjà le changer.
Quelles sont les chances du modèle social français dans cette Europe qui se construit ? Qu'est-ce qu'il faut garder et qu'est-ce qu'il faut laisser tomber ?
Sur le plan du système de sécurité sociale, le nôtre est un des plus avancés, pas des plus efficaces, mais des plus avancés dans sa conception et dans certaines de ses réalisations.
Mais ça veut dire quoi au final ?
Il faut le garder en l'adaptant.
Est-ce que c'est bien d'être avancé à ce point ?
Oui, mais il faut le garder, mais en l'adaptant. Je veux dire, nous avons décidé...
Et l'adapter, c'est peut-être le faire reculer un peu, quand même.
Non, les valeurs. Si les valeurs de prévoyance et de solidarité sont accompagnées par une valeur de responsabilité, car vous ne pouvez pas avoir des systèmes aussi lourds qui combinent la socialisation du risque, la couverture socialisée du risque, la libre prescription des médecins, le libre choix du médecin. C'est un système luxueux.
Irresponsable.
Luxueux. Genre, non, je ne dis pas irresponsable, je dis luxueux. Donc il faut, si on veut le garder, il faut responsabiliser tous les acteurs du système de santé. Comme le dit très bien Nicole Notat, c'est ça qu'il faut faire. Mais ceci dit, notre système est enviable. En revanche, notre système de relations entre le patronat et les syndicats est le plus mauvais d'Europe. D'une part, parce que nos syndicats ont peu d'adhérents. Nous avons... 7 ou 8 syndicats, selon la manière dont on compte, et ils se divisent entre eux, et c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est pas en France qu'on a fait un grand accord national qui a permis aujourd'hui aux Hollandais, aux Irlandais, aux Finlandais, aux Belges d'obtenir des progrès. C'est pas chez nous que cela est passé. Donc notre système de relations industrielles est un des plus mauvais d'Europe. Et un des moins efficaces. Alors évidemment, aussitôt cela suscite des protestations de tous ceux qui sont installés dans leur pouvoir, mais on en revient toujours au même moment, on est heureux d'avoir un pouvoir, on s'illusionne sur ce pouvoir, et ce pouvoir devient des fois négligé.
Et si vous me disiez un mot des patrons, parce que bon, d'une part les syndicats, ou en tout cas les salariés trop peu syndiqués, mais les patrons français, je veux dire, est-ce que ce sont des bâtisseurs européens ? Est-ce qu'ils ont compris quelque chose ?
Ah non, les chefs d'entreprise français ont été pour l'Europe, pas en 1957, au moment du traité de Rome, l'organisation du patronat français était hostile. Elle voulait garder ses avantages. Aujourd'hui... dans le grand patronat, on est très en faveur de l'Europe parce que on raisonne mondial, si vous voulez, et que l'Europe est un des moyens d'affronter la mondialisation.
C'est un bon calcul.
Mais en matière sociale, on n'a pas beaucoup compris. On n'a pas beaucoup compris que Le succès économique dépendait aussi de la qualité des relations dans l'entreprise, du niveau de formation des travailleurs et des responsabilités qu'on leur donnait, de leur participation, pour reprendre un mot classique. Et donc, là aussi, il y a des progrès à faire. Et d'ailleurs, on le voit bien, en France, les relations sociales sont marquées par la division syndicale, des attitudes trop politiques du patronat, et puis aussi la faiblesse de l'organisation patronale. Le CNPF n'est pas très représentatif, en réalité. Bref, je dis ça sans...
Donc ça bloque l'Europe, ça, quand même.
Non, ça handicape la France. Un bon système de relations sociales est un atout dans la compétition politique et économique. Tant qu'on n'aura pas compris ça en France, on gardera ce talon d'Achille.
À la rencontre de l'Europe, cette semaine l'Europe sociale, aujourd'hui Jacques Delors, parcours d'un Européen modèle. Documentation Emmanuel Fournier, prise de son et mixage Christian Lahondès et Stéphane Lévy, réalisation Nathalie Triandafilidès.
Cette émission a été diffusée pour la première fois sur France Culture le 24 août 1998. Vous pouvez la réécouter en ligne sur le site franceculture.fr, à la page des Nuits de France Culture et sur l'application Radio France.